Salon Noir. On évoque souvent Marseille pour ses quartiers nord qui donnent tant de fil à retordre à l'aménagement du territoire. Mais Marseille l'a décrié, c'est avant tout la ferveur des supporters d'un fameux club de football, véritable sujet d'anthropologie sociale étudié par Christian Bromberger. L'Olympique de Marseille est en fait une des rares réminiscences des origines grecques de notre plus ancienne cité française. Se référer à l'Olympe, Olympie ou l'Olympisme, ce n'est pas rien. Marseille est donc une entité à part sur notre territoire national, une ville qui livre souvent, avec parcimonie, parfois de façon spectaculaire, les fragments de son histoire. À quelques encablures du Vieux-Port, la mise au jour de bateaux grecs sous les futurs musées ou parkings en sont la preuve. À l'heure où Marseille change de visage sous l'impulsion de gigantesques travaux, il nous fallait nous pencher sur ce que fut son territoire, ce que furent ces territoires où se croisèrent Grecs, Romains et Celtes. Pour en parler, deux spécialistes. Sophie Bouffier, Dominique Garcia, bonjour.
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 Vous êtes tous deux professeurs à l'université d'Aix-Marseille. Sophie Bouffier, vous êtes professeure d'histoire grecque occidentale et directrice de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Dominique Garcia, vous êtes professeure d'archéologie, de proto-histoire européenne et des antiquités nationales. Vice-président du CNRA, vous êtes aussi depuis peu président de l'INRAP. Notre aire de recherche sera aujourd'hui ce que l'on appelle en France la zone de l'olivier, un arbre dont les premiers Grecs seraient les introducteurs. Dominique Garcia ?
En effet, la zone de l'olivier est une zone plus culturelle que naturelle. La preuve, elle s'étend aujourd'hui même aux terrasses des immeubles parisiens. Mais dans l'Antiquité, cette zone de l'olivier est surtout la zone d'influence de la culture grecque. Même si la variété sauvage de l'olivier, l'oléastre, est indigène dans le midi de la France. Le développement de la culture de l'olivier et surtout l'adoption du mode de vie méditerranéen est lui contemporain du développement de la ville grecque de Marseille et donc de ces territoires.
Donc ce n'est jamais les Grecs qui ont introduit l'olivier en France.
C'est les Grecs qui ont introduit la manière d'utiliser et de valoriser le fruit de l'oléastre.
Sophie Bouffier, l'olivier, c'est le symbole d'Athènes tout de même.
Ah oui, c'est le symbole du renouveau d'Athènes dans toutes les vicissitudes de son histoire, hein, puisque c'est le symbole d'Athéna, Athéna qui offre l'olivier aux citoyens et qui va de ce fait être la divinité polyade de cette grande cité qu'est Athènes.
Alors cette idée que l'olivier serait d'origine grecque, on imagine que c'est puisé dans la littérature de l'histoire du 19e siècle ?
C'est le texte de Justin qui nous dit avant tout que...
Donc bien plus tôt.
Bien plus tôt, effectivement. C'est un texte antique qui nous dit que les Grecs de Marseille ont appris aux indigènes à cultiver la vigne et l'olivier. Mais au travers de ce texte, c'est en fin de compte les modes de vie méditerranéens qui sont affirmés. L'olivier, lui, était là comme la vigne dans ces régions depuis les temps anciens.
Les Grecs, on leur doit de toute manière beaucoup. La ville, la monnaie, le vin et peut-être même l'écriture.
Ah, l'écriture, là, c'est... Dans le milieu de la France, oui, certainement, étant donné que les Gaulois n'ont appris que tardivement à écrire le grec par cette langue qu'on appelle le gallo-grec, hein, où ils transcrivaient, selon l'écriture grecque, leur propre langage. Mais vous savez aujourd'hui que le grec lui-même aurait été emprunté, adapté du phénicien, de l'alphabet phénicien, au plus tôt... Au 8e siècle, ou au plus tard, pardon, au 8e siècle, probablement avant.
Là, nous sommes entre Grecs et Celtes, mais au cours de cette histoire, à partir du 7e, 6e siècle avant notre ère, il y aura bien d'autres populations méditerranéennes à circuler autour de ce midi de la France.
Alors, Marseille est la première ville fondée en France, donc en 600 avant Jésus-Christ, mais effectivement, dans un espace européen occidental, les zones méditerranéennes ont été fréquentées anciennement par des populations phéniciennes, par des populations étrusques, par des populations en quête de territoire, en quête de ressources, et qui sont venues là, dans ces zones occidentales, au contact des populations locales, celtiques, ibères, ligures.
Sophie Bouffier, on le dit, on le répète, Marseille fut fondée par Phocée, cette ville d'Asie mineure dans l'actuelle Turquie. On évoque même deux vagues, l'une en 600 et l'autre un petit peu plus tardive. Retracez-nous cette aventure.
Oui, alors le texte le plus ancien qui nous parle de la fondation de Marseille, ou en tout cas du passage des Phocéens dans la Méditerranée occidentale, c'est Hérodote qui nous dit que les Phocéens sont les premiers à avoir découvert l'Adriatique, la Tyrénie, l'Ibérie et Tartessos. Là où à Tartessos, c'est-à-dire en Andalousie, ils auraient rencontré le roi Argentonios qui leur aurait proposé de venir s'installer directement à Tartessos. Donc effectivement, à la fin du 7e siècle, un certain nombre de textes qui nous apprennent que les Phocéens, par l'intermédiaire d'un petit groupe qui se serait arrêté aussi à l'embouchure du Trip, dont les liens particuliers de Marseille avec Rome, souligné par la tradition romaine, bien sûr. Et ce petit groupe mené à la fois par un phocéen, mais aussi peut-être par un autre, le chef d'un autre groupe, peut-être venu d'Éphèse, comme l'évoquent aussi certains textes. Et puis, lié, on y reviendra, au mythe de fondation, de ce fameux mariage entre Gyptis et Protis. Donc, un petit groupe mené par Simos et Protis. Simos qui, très rapidement, va disparaître de l'histoire officielle. Et dans un deuxième temps, effectivement, au moment où les Perses s'emparent des cités grecques d'Asie mineure, un groupe qui viendrait de Phocée, qui s'arrêterait à Éphèse et qui vient probablement compléter le peuplement premier des Phocéens à Marseille, pour simplifier.
Donc il y aurait deux vagues, une petite au départ, avec juste peut-être un petit contact et une installation, et puis ensuite une véritable migration liée justement à l'attaque des Perses, Phocée plutôt attaquée par les Perses, c'est bien ça ?
Alors c'est ce que nous disent les textes. Maintenant on commence à voir plutôt que des deux phases successives, plutôt des mouvements réguliers de l'une à l'autre, comme pour les autres installations grecques à l'extérieur, outre-mer.
Nous voici devant une colonie phocéenne, mais est-ce tout ? Dans la cité, la fameuse Diane aux multiples seins, l'Artémis d'Éphèse y est adorée. La ville d'Éphèse aurait-elle joué un rôle encore méconnu dans la création de la cité de Marseille ?
Alors, oui, c'est effectivement ce que nous dit Hérodote, puis Strabon, à savoir que les Phocéens, en quittant Phocée, se sont arrêtés à Éphèse, où la prêtresse d'Artémis, Aristarchée, aurait eu un songe, et elle aurait vu la divinité lui enjoindre d'accompagner ces Phocéens vers l'Occident. Et de partir avec le fameux Xoanon, c'est-à-dire cette statue en bois. Je renvoie les auditeurs à l'article de Michel Batz dans l'ouvrage qui a provoqué notre présence ici, « L'héritage du territoire de Marseille antique », pour reprendre effectivement tout cet aspect sur les liens entre Éphèse et Marseille. Il y a eu probablement un groupe d'Éphésiens installés à Marseille en même temps que les Phocéens, qui se sont ensuite mêlés au peuplement originel.
Donc on casse une sorte de mythe pour les Marseillais d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas ici que des Phocéens.
Oui,
au niveau de l'identité.
Oui, effectivement.
Parce que Phocée, on en parle, on ne parle jamais d'Éphèse.
On ne parle jamais des fèves et puis on ne parle pas non plus des autres, des quelques étrusques probablement installés sur le panier en même temps que les Grecs et peut-être d'autres aussi que l'archéologie contribue à montrer.
À ses débuts, Marseille est-elle ce que les spécialistes appellent un emporion, l'implantation d'une petite population en marge d'une population indigène, mais surtout dépourvue de territoire. Dominique Garcia.
Quand les Marseillais arrivent dans cette région, quand ils fondent la ville de Massalia, ils se trouvent dans un contexte particulier, celle d'une région qui n'est pas extrêmement peuplée et surtout en contact avec des populations qui n'ont pas un sentiment territorial très affirmé. On a probablement des populations dont la base de l'activité est essentiellement pastorale, c'est-à-dire des populations dont le territoire est plutôt axé sur des parcours, sur des sources, sur des lieux de ressources bien identifiés, plutôt que sur des espaces extrêmement larges et dominés politiquement. Et donc, quand les Marseillais vont s'implanter, il ne va pas y avoir un affrontement, mais bien au contraire, une liaison, une association entre des populations tournées vers la mer et capable de fournir des produits nouveaux à ces populations locales, en particulier le vin, qui n'était pas connu, et des populations locales, indigènes, celtiques, qui vont pouvoir accueillir, s'associer avec ces populations grecques.
France Culture, le Salon Noir.
Vincent Charpentier.
Dominique Garcia, archéologiquement, on a récemment découvert des champs de vignes anciens, grecs.
Alors, autour de Marseille, les phases d'urbanisation, les travaux menés par les différents archéologues, notamment de l'atelier archéologique municipal et de l'Institut national de recherche archéologique préventive, ont montré, en fin de compte, des traces de plantations qui montrent effectivement que Marseille a développé un produit nouveau, en l'occurrence le vin, à partir de plantations de vignes qui n'étaient pas connues avant l'arrivée des Grecs, et ont su mettre en place une culture spéculative. Les textes et l'archéologie nous montrent que le territoire de Marseille, de la ville grecque, était relativement réduit, et plutôt que de produire des céréales, mettons, pour satisfaire les besoins de la population grecque de Marseille, les Grecs ont préféré produire des aliments, des produits nouveaux ayant une forte valeur d'échange, le vin et l'huile, et ensuite de développer une activité commerciale vers les populations dites barbares.
Donc quand je disais que cet emporion était dépourvu de territoire, c'est complètement faux. Qu'est-ce qu'un emporion, Sophie Bouffier?
Difficile question.
Une colonie, on peut dire.
Non, c'est pas une colonie. L'emporion, c'est un lieu où on pratique l'échange entre des commerçants qui arrivent et puis un groupe déjà installé. Donc le plus fameux, c'est bien sûr l'Empurias espagnol, qui est aussi une fondation phocéenne ou massaliette. Le débat historiographique n'est pas clos là-dessus. Et l'autre emporion très célèbre, c'est Naucratis en Égypte. C'est-à-dire que c'est un lieu où les Grecs s'installent pour pratiquer le commerce avec les populations locales, où ils ont des droits, mais où ils n'installent pas nécessairement une cité, ce que les Grecs appellent une polis, avec toutes les institutions grecques qui vont avec. Disons que c'est un lieu d'échange entre les uns et les autres.
Dominique Garcia, les contes de fées finissent généralement par un mariage et beaucoup d'enfants. Le mythe de Marseille commence par l'inverse, et le jeu de l'alliance et de la parenté. Quel était le but de cette étonnante pratique des Celtes, le choix d'un mari par une princesse celtique lors d'un banquet ?
Alors, notre hypothèse, notre proposition serait de voir effectivement dans la légende de Gyptis et de Protis une réalité que auraient perçu les Grecs, et notamment le fait que donc, nous dit l'histoire, la jeune fille locale, celte, choisit parmi les invités à un banquet celui qui sera son mari, et donc ensuite le père de la jeune mariée, de l'épouse, va offrir une portion de son territoire au nouveau marié sur lequel ils vont pouvoir fonder une famille.
Une sorte d'essaimage sur le territoire.
Voilà, c'est la proposition que nous avons faite, c'est que ces populations de pasteurs qui ne pouvaient pas développer des villes très importantes, leur mode, leur système économique ne permettait pas un essor démographique important, lorsque la population devenait trop importante, une partie de la population, les jeunes, venaient s'implanter sur une autre partie du territoire. Et en l'occurrence, c'est la jeune fille qui choisissait son époux et ensuite l'entraînait, l'enlevait, l'amener sur une partie du territoire, créer avec sans doute des clients, des alliés, des amis, un autre village. D'où cette pratique d'essaimage.
Sophie Bouffier.
Oui, alors en même temps, les Grecs hellénisent ce mythe, hein, puisque si on regarde l'Iliade et l'Odyssée, si on regarde Hélène a choisi son mari, hein, dans l'épopée homérique, la femme aussi choisit son mari. C'est ensuite dans l'histoire grecque que les choses vont se durcir pour les femmes. Et ce mariage originel, hein, les Grecs le récupèrent. Hein, la jeune fille qui s'appelait peut-être Péta et que Dominique n'a pas expliqué, hein, il le montre très bien dans l'ouvrage que nous avons dirigé. Péta, ça signifie la part, le morceau de bois, c'est cette partie un petit peu de territoire avec lequel elle arrive. Elle va s'appeler Aristoxéné, c'est-à-dire la meilleure des hôtesses, parce que justement, elle a accueilli le grec. On est dans une pratique grecque de l'hospitalité, qui est une grande pratique de l'aristocratie d'époque archaïque, avec échange de dons, et là, mariage qui va donner la dynastie des Protiades, probablement... parmi les chefs de la vie politique pendant longtemps à Marseille.
Dans le territoire amoureux, les Grecs n'essaiment pas, mais sont dans la patrie linéarité. Les jeunes mariés renforcent le groupe. Nous voici donc dans deux modes de lignage très différents entre Celtes et Gaulois.
Deux modes différents, mais qui trouvent, durant cette période autour de 600 avant Jésus-Christ, une liaison. On a la fin, en fin de compte, d'un mode de vie avec ces populations celtiques, sans doute semi-sédentaires, pratiquant l'élevage, et puis l'installation de la ville. On va passer, en fin de compte, d'un mode de vie basé sur des pratiques pastorales, avec une emprise territoriale peu marquée, et celle ensuite des contacts avec le monde grec, de la ville, et donc l'adoption d'un nouveau mode de vie. Les populations celtiques vont s'insérer dans un nouveau réseau, qui cette fois-ci est un réseau méditerranéen, celle des villes.
Alors cette légende, est-ce qu'elle pourrait refléter une vraie réalité ?
Alors, c'est ce que nous avons essayé de voir et de discuter, d'échanger, d'interroger dans le cadre de notre séminaire, de cet ouvrage sur les territoires de Marseille antique, en confrontant à la fois les données littéraires, les données historiques, les données archéologiques. Et effectivement, on s'aperçoit que cette légende est un peu plus que la légende. Alors, on y garde le caractère magique. On peut imaginer tout ce qu'on veut autour de la jeune princesse celtique et du beau prince marin grec, mais l'archéologie démontre qu'on a affaire à des réalités que aujourd'hui on peut cerner un peu mieux.
Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons Marseille et ses territoires en relation avec les Celtes, avec Dominique Garcia et Sophie Bouffier, tous deux professeurs à l'université d'Aix-Marseille. Les Gaulois, mieux les Celtes du Midi, sont d'une certaine manière les oubliés de l'histoire, la Gaule indépendante qui lutta face à César. Les raisons de cet oubli sont probablement historiques, la conquête romaine.
Alors, la conquête romaine et puis la formation de l'identité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, en France, la nation française, c'est effectivement les Gaulois, c'est Vercingétorix, c'est le peuple éduin, et ces populations depuis longtemps méditerranéisées, les populations du midi de la France, sont laissées un petit peu à l'écart. Or, paradoxalement, ce sont les premières à entrer dans l'histoire grâce à cette légende et grâce à la fondation de Marseille. Ils ne sont oubliés que d'une vue du nord vers le sud. En fin de compte, ils participent à un réseau méditerranéen et ils ne sont pas oubliés d'une histoire de la Méditerranée large. Aujourd'hui, on peut les valoriser de manière large dans un espace euro-méditerranéen. Ils sont moins les Celtes de la nation pour être un peu les Celtes de l'Europe et de la Méditerranée.
Côté gaulois, qui sont les Ségobriges, une ethnie lilliputienne dont le chef est un nain, Nanos, Nanus ?
Ne soyez pas méchants. Les Ségobriges eux-mêmes s'appelaient Ségo, c'est la victoire, comme dans Ségolène, et Briga, c'est la forteresse. Donc les Ségobriges s'appelaient les habitants de la forteresse victorieuse ou de la colline victorieuse, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils avaient quand même imposé leur force par rapport aux populations voisines. Bien entendu, l'alliance qu'ils ont trouvée avec Marseille, celle de l'alliance matrimoniale, celle des échanges culturels, les a fait petit à petit se dissoudre dans l'histoire, la grande histoire de la ville de Marseille. Mais c'est un peuple qui avait du sens.
C'est-à-dire qu'ils vont totalement disparaître de l'histoire ensuite ?
Ils ne sont cités que deux fois dans les textes. Et puis quand on regarde, en fin de compte, la dynamique d'évolution de la ville de Marseille, vu qu'il se trouvait, la ville de Marseille est fondée sur le territoire des Ségobriges, et bien entendu, le développement de la ville va masquer petit à petit leur territoire et probablement que ces populations vont être intégrées dans celles du territoire de Marseille.
Sophie Bouffier, l'implantation des Grecs en terre lointaine se fait le plus souvent de manière violente ou par la ruse, du moins d'après Diodore de Sicile ou Thucydide, par exemple en Grande-Grèce, c'est-à-dire dans l'Italie du Sud ?
Oui, et en Sicile aussi. Oui, c'est vrai que nous disposons d'un certain nombre de textes évoquant ces fondations assez violentes. Alors on a eu pendant longtemps tendance, dans le débat historiographique, à présenter deux formes de colonisation. Une plutôt pacifique, qui est fondée plutôt sur les échanges et le commerce, donc la colonisation phocéenne ou la colonisation eubéenne. Et là, effectivement, les mythes de fondation évoquent plutôt des relations amicales au départ, qui peuvent dégénérer, comme c'est le cas à Marseille. Et puis, vous avez des formes d'expansion plus violentes, comme à Syracuse, comme dans le sud de l'Italie, à Locre et Pisefiri, par exemple, où les sources évoquent, en effet, une prise de territoire assez violente, au détriment des indigènes, qui sont soit asservis, soit exterminés. C'est une vision qui est probablement reconstruite après les moments de la fondation, puisque quelqu'un comme Thucydide au 5e siècle écrit une histoire officielle qui n'est probablement pas celle du 8e et du 7e siècle, parce que chaque cité grecque, chaque apoikia, puisque c'est ces cités qui vont loin de la maison, qui forment des nouvelles police cité à l'extérieur, se sont créées des origines, un passé plus ou moins mythique et qu'elles l'ont exalté à travers leurs historiens.
En Italie ou en France, de quoi se compose la diaspora grecque ?
Alors, on insiste beaucoup sur la notion des réseaux, c'est-à-dire que vous avez des régions de Grèce qui ont essaimé, qui sont allées fonder des cités. Donc le réseau eubéen, au départ de Chalcis et d'Érétrie, qui s'est plutôt installé le détroit de Messine, dans le golfe de Naples, avec la première fondation à Pithecus, c'est-à-dire l'îlot d'Ischia. Un réseau eubéen, donc. Un réseau également mégarien, qui va s'installer à Mégare Iblea, Sicile, mais aussi de l'autre côté en mer Noire, parce qu'il faut bien voir que souvent ces réseaux qui sont situés sont allés de part et d'autre de la Méditerranée. Et donc ces diasporas sont fondées probablement par mélange de groupes au départ, et qui se sont installés dans des endroits laissés vides d'expansion grecque à ce moment-là.
Dominique Garcia, le démarrage de l'économie massaliote débute aux environs de 540, donc la deuxième vague d'arrivée des Phocéens. Il s'agit là probablement d'une vraie rupture entre monde grec et gaulois.
C'est une autre appréhension de l'espace et des contacts entre les populations grecques et les populations gauloises ou celtiques. Avant cette phase de 540, tout le monde était dans son rôle. Les Grecs tournaient vers la Méditerranée, les populations celtiques tournaient vers les zones septentrionales. À partir de 540, Marseille va devenir un acteur important vers la Méditerranée et vers le reste de l'Europe. On retrouve des traces de ce commerce, de cette production marseillaise, du vin de Marseille, en Bourgogne, on en retrouve à Bourges, bien entendu, on en retrouve à la Hunebourg en Allemagne, donc il va y avoir un un véritable réseau commercial irrigué par la ville de Marseille. Et de fait, donc, du coup, l'espace celtique va entrer dans ce grand réseau méditerranéen.
Ce territoire de Marseille, si on y réfléchit, je dirais qu'on peut aussi bien sûr le percevoir par les échanges, mais aussi la diffusion de monnaie, les fameuses oboles que l'on retrouve désormais quasi sur la côte normande.
Oui, nous les avons vues récemment en Pont-en-Bessin, découvertes sur un site gaulois en bordure de la Manche. Mais ce que nous avons voulu, nous, essayer d'appréhender, c'est pas justement un territoire, mais bien des territoires, des zones d'influence, à l'heure où on parle dans l'actualité de découpage territorial, du millefeuille territorial. Nous, nous n'avons pas essayé de réduire le territoire de Marseille, de le simplifier, mais essayer de voir chacune de ces feuilles, de ce millefeuille territorial, et d'essayer de voir à chaque fonction attribué à chaque feuille. Et donc, effectivement, on étudie notamment l'espace de diffusion de ces monnaies, voire par où Marseille a diffusé son monnayage, c'est-à-dire les endroits où on a accepté la monnaie comme terme de l'échange. On essaie également d'appréhender l'espace religieux. Nous essayons également, grâce aux travaux de Pascal Arnaud, d'apprendre l'espace maritime de Marseille. Donc une série de territoires qui ne sont pas en contradiction, mais bien en liaison, chacun ayant une fonction différente.
Peut-on penser que les premiers oppidas et forteresses gauloises aient été créés suite à l'arrivée des premiers Grecs vers 600 avant notre ère ?
Alors ça a fait l'objet de discussions récentes, parfois assez fortes parmi les archéologues, parce qu'effectivement, cette date symbolique, 600 avant Jésus-Christ, la fondation de Marseille, on était tenté d'imaginer des villages proto-occitans fondés dès la fin du 7e siècle. En fait, soyons francs, la plupart des sites proto-historiques, pour ne pas dire tous les sites proto-historiques, tous les sites gaulois, sont fondés après 600 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que la première ville est bien Marseille, et ensuite les Gaulois ont développé leur propre système urbain en le raccrochant, en l'insérant dans le réseau marseillais.
Les grands sanctuaires et lieux de culte auraient joué un rôle capital dans la structuration territoriale des sociétés celtiques de Provence et du Midi. Et Dieu sait si les sanctuaires du Midi de la France sont tout à fait extraordinaires, avec une statuaire absolument formidable.
Alors, les sanctuaires fouillés anciennement dans la vallée du Rhône ou plus récemment dans la région provençale montrent effectivement que ces sites ont eu un rôle central. Ces sanctuaires ont servi de cohésion, de lien à l'ensemble des groupes ethniques du Midi, et donc, en fin de compte, sont ceux qui, à travers le temps, a permis à ces populations de conserver, voire de développer une identité à côté des populations grecques. Et pendant toute l'histoire de la Méditerranée celtique, on voit se développer ces sanctuaires à Glanum, à Entremont, dans la vallée du Rhône, où on voit une statuaire représentant ces chefs de village, ces petits rois, et donc l'émergence comme ça d'une hiérarchie sociale dans ce milieu indigène qui affirme son identité, sa force, ses capacités de regrouper les populations face aux Grecs de Marseille et des populations méditerranéenne.
En conclusion, ne sommes-nous pas entre Marseillais et Gaulois devant deux systèmes, deux ethnies qui vont coexister en s'insérant dans deux réseaux réciproques ?
Alors on a effectivement, grâce à cette région intermédiaire de la Provence et du Languedoc, la liaison entre deux sphères, celle des populations celtiques continentales et celle des populations méditerranéennes. Et on va se retrouver là à l'interface de ces grands groupes de la Méditerranée et de l'Europe pour l'émergence, en fin de compte, de nouvelles identités.
Dominique Garcia, Sophie Bouffier, merci. Je signale que deux livres sont d'ailleurs récemment parus sur ce thème. Les territoires de Marseille antique, codirigés par vous-même, tous les deux. Et la Celtique méditerranéenne, par vous, Dominique Garcia. Le tout aux éditions Errance. La semaine prochaine, nous remonterons aux origines de la Grèce avec Pascal Darc, directeur de recherche au CNRS. Le Salon Noir a été réalisé par Olivier Guérin, à la technique Clément Daté, attaché d'émission Catherine Donné. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.